Philosophie de l'activité artistique par le père Philippe Saint-Joseph le 28 novembre 84.
Il faut comprendre que la plupart de nos activités humaines impliquent toujours des éléments du facere, des éléments de l'agir, et que nous devons essayer toujours, en les analysant, bien préciser ce qui représente de la réalisation artistique et ce qui relève de cette intention morale. C'est un petit peu, vous voyez, comme deux frères jumeaux qui se développent en nous. Parallèlement, c'est constamment comme ça. Nous sommes à la fois des artistes, c'est-à-dire des êtres qui ont besoin de réaliser quelque chose. Tout être humain a besoin de réaliser quelque chose. C'est peut-être pas nécessairement une œuvre d'art, un poème, c'est peut-être quelque chose de très très simple. Il a besoin de cela. Le travail est une dimension essentielle à la vie humaine. Et tout être humain a besoin d'être finalisé. Alors, il faut saisir les implications de l'un dans l'autre. Je crois ça très très important. Saisir comment une pure efficience tue l'homme, comment une pure activité morale, sans aucune efficacité d'ordre du facere, risque toujours de nous enliser. Il y aurait des quantités d'exemples à prendre, ça. Vous voyez, une communauté religieuse qui serait uniquement morale, sans élément du tout d'efficacité, risquerait de s'enliser. Une communauté, l'usine, de pure efficacité, et qui voudrait être de pure efficacité, risque de détruire l'homme. L'élément moral permet à l'efficacité d'être dépassée et donc valorise l'homme travailleur en lui permettant justement de découvrir quelque chose de beaucoup plus profond et par le fait même de se ressourcer constamment. Alors, nous avons essayé la dernière fois, en partant de l'expérience du travail, voir tous les éléments qui étaient impliqués dans l'expérience du travail. Il faut y revenir tout le temps, ça. Hein, parce que c'est à partir de là que nous pouvons... Et je prends l'expérience du travail, n'importe quelle expérience du travail. C'est à partir de là que nous pouvons essayer de réaliser la philosophie du facere. J'emploie ce terme parce que... Dites l'activité réalisatrice, l'activité artistique, artisanale, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ordonnée à une œuvre. Donc, il y a le facere, il y a la durée. C'est un fait, je vous le disais la dernière fois, c'est un fait qu'on a beaucoup développé le point de vue dans notre culture occidentale. On a beaucoup développé la durée et l'activité morale au point de vue réflexion philosophique. On n'a pas développé du tout le point de vue du facere. Il a fallu attendre la praxis de Karl Marx pour commencer à y réfléchir. Ça, c'est un fait. Avant, il y avait réfléchi Aristote, la poiesis. Et d'Aristote à Karl Marx, pas grand-chose. Les théologiens ont gardé la morale. ça c'est vrai, ils l'ont bien gardé. Les théologiens ont gardé la morale. Et les théologiens n'ont pas gardé du tout le patriarcat. Pas du tout. Ils l'ont laissé. Dans la vie monastique, on a un tout petit peu réfléchi sur ce que c'était que le travail, sous le sens de la liturgie. Mais il n'y a pas de philosophie du travail. Il n'y a pas de philosophie de la liturgie. Une théologie. Une philosophie d'abord. On ne peut pas avoir une théologie de la liturgie s'il n'y a pas d'abord une philosophie. Et il doit y avoir une philosophie de la liturgie. Alors, chercher, ça n'existe pas. C'est curieux, vous savez, on a l'impression que ce domaine du fatféré est resté complètement en dehors. Au point de vue, réflexion. Aristote en parle à propos de la famille, et ça nous verrons, mais très peu. On va dire qu'on a développé le travail pour les mêmes. Donc, il faut revenir à l'expérience du travail, que nous partons de l'expérience. On pourrait dire, mais je pourrais partir d'inspiration. Non, je ne peux pas partir d'inspiration. Parce que l'inspiration, d'abord, je ne sais pas si elle est réelle, tant que l'œuvre n'est pas faite. J'ai eu des inspirations extraordinaires. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Alors ça, c'est le cuisinier qui a eu une idée magnifique au début de la matinée, faire une tarte à la crème merveilleuse, extraordinaire, il y a tellement pensé que rien n'est sorti. Alors, évidemment, l'inspiration était peut-être très très belle, mais rien n'est sorti. Alors, le travail, au contraire, là, on est tout de suite devant un jugement d'existence. Pas de jugement d'existence dans l'inspiration. Ça, nous allons voir après. C'est très très curieux. Je ne peux pas commencer une philosophie par l'inspiration. Platon aurait voulu, je crois que Heidegger aussi. La philosophie de Heidegger, c'est une philosophie de l'inspiration, la philosophie de Platon, c'est une philosophie de l'inspiration. Et quand c'est une philosophie de l'inspiration, c'est très intéressant, ça dit des choses extrêmement intéressantes, mais ce n'est pas le réalisme. C'est pour ça que nous partons de l'expérience du travail. Ça, c'est important. L'expérience du travail, nous l'avons tous. Quelquefois un peu trop, parce qu'on trouve qu'on travaille de trop. C'est vrai, on est des bêtes de somme. Et dans la vie religieuse, on est des bêtes de somme. Avec quelqu'un qui vous, tout le temps, vous pousse pour que vous donniez plus et qu'il y ait quelque chose de plus. Le travail fait comprendre ce que c'est l'efficacité. Et l'efficacité, justement, elle est ordonnée à l'œuvre. Le travail implique le point de vue de la matière. Et va donc réaliser cette efficacité. Après avoir fait l'analyse de tout ce qui est contenu dans l'expérience du travail, comme on peut faire l'analyse de tout ce qui est impliqué dans l'amour d'amitié. Nos deux grandes expériences, l'amour d'amitié, le travail. Nous pouvons, à partir de là, faire un parallélisme extrêmement intéressant entre le rythme de l'activité artistique et le rythme de l'activité morale. Et nous voyons qu'il y a des paliers semblables. C'est ce que je vous avais donné, je crois, la dernière fois. Alors, nous pouvons nous poser la question maintenant, y a-t-il des moments où l'activité artistique, où l'activité de la réalisation est complètement indépendante du point de vue moral? Y a-t-il des moments où l'activité morale est totalement indépendante du point de vue artistique? Ces deux frères jumeaux, y en a-t-il un qui est né avant? Et puis il entraîne l'autre. Est-ce que l'autre va pouvoir avoir une activité totalement indépendante du précédent? Il est bien évident que beaucoup de nos activités morales impliquent un point de vue artistique. Je prends tout simplement le point de vue de l'exécution au point de vue moral. Quand vous vous mettez à décider de réaliser quelque chose, vous tombez dans la vie commune. Et en tombant dans la vie commune, nécessairement, vous extériorisez vos intentions. C'est pour ça que c'est jamais très drôle. Il y a une extériorisation de tout ce qu'on porte en soi. Et on tombe sous le regard des autres. Et on a toujours l'impression que tout le monde nous regarde. Alors que personne ne nous regarde, ça fait rien. On a l'impression que tout le monde nous regarde. Parce que quand on tombe tous en même temps, on ne regarde pas l'autre. On est plus attentif à ce qu'on fait. Alors, dès qu'on tombe sous le regard des autres, il y a immédiatement un aspect artistique qui commence. Dès qu'on réalise quelque chose, matériellement, il y a un point de vue artistique qui commence et qui fait que c'est mêlé. C'est pour ça que le travail et l'exécution se tiennent très très fort. Y a-t-il des moments où l'activité artistique est à l'état pur? Vous savez bien, là on touche des problèmes très anciens. L'art est-il indépendant de la morale? L'art pour l'art. L'art est-il indépendant de la morale? Est-ce que l'art nécessairement inclut la morale? Ce sont des problèmes qui sont très importants, qu'on doit regarder d'abord au point de vue philosophique, avant de les regarder au point de vue théologique. Parce que c'est des problèmes très importants et qui se reposent tout le temps. Est-ce que l'art est nécessairement condamnable? Il y a eu des condamnations sur l'art, vous savez bien. Et les artistes en portent toujours un peu les conséquences. Ils le sentent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je crois qu'il faut essayer de comprendre que le premier moment d'activité artistique, l'inspiration, est tout à fait indépendant de la morale. L'inspiration a son autonomie propre. Évidemment, je pourrais parler, on essaiera de le comprendre, d'une inspiration chrétienne. Je crois qu'il peut y avoir un art chrétien. Et s'il y a un art chrétien, il y a une inspiration chrétienne. Et vous voyez, ce n'est pas la morale. Vous me direz, il peut y avoir un art religieux. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir un art religieux. Un art religieux dépend donc indépendante du point de vue chrétien, indépendante du point de vue religieux. Une inspiration comme telle. L'inspiration comme telle peut être en dehors du point de vue chrétien et du point de vue proprement moral, religieux. On essaiera de comprendre. Je pose maintenant comme petit problème très important. C'est là où on voit l'autonomie de l'art. C'est là où on découvre l'autonomie de l'art. C'est là où on découvre comment l'art peut avoir son indépendance et ses exigences propres. Que seul un artiste comprend pleinement. Un béotien ne comprend jamais parfaitement. Et un père de famille comme père de famille, ou une mère de famille comme mère de famille, ne le comprend jamais parfaitement. Trop peur, trop dangereux. Et c'est vrai, c'est très dangereux. Alors, l'inspiration, deuxièmement, le choix créateur. Parce que le choix créateur peut être complètement isolé du point de vue moral. Je crois que le choix créateur est lié directement à l'inspiration. C'est le passage du possible au nécessaire. Quand il y a un choix créateur, il y a quelque chose qui s'impose à l'artiste. On dit choix, mais en réalité, c'est quelque chose qui s'impose. L'inspiration vous donne une espèce de possibilité extrêmement vaste, et puis il y a cette chose qui s'impose. Puis vous avez la réalisation. La réalisation, c'est le produit du travail. Alors là, je crois qu'au point de vue du travail, tout de suite, l'aspect moral intervient. Pas pour moraliser le travail, mais parce que on doit travailler avec ardeur. Il y a des gens qui travaillent avec paresse. Et alors, est-ce que ce point de vue-là n'est-il pas l'influence du point de vue moral sur le point de vue du travail? Et Saint-Pierre, dans son encyclique sur le travail, dit qu'il aimerait mettre une vertu particulière, l'ardeur du travail. C'est très amusant, l'ardeur du travail. Simplement, parce que si je travaille avec ardeur, ça fait du moral. Ce n'est pas le travail qui me fait être ardent. L'ardeur est une qualité morale. Je m'applique à fond. Il y a des artistes qui sont très en dehors du point de vue moral, hein, et on voit très bien, ils ne se mettent à travailler que quand ils sont en état de grâce. Comme ils le disent. C'est-à-dire quand ils sont capables de se mettre à travailler. Autrement, ça ne sert à rien. Je comprends très bien. Et si ces artistes ont une épouse qui regarde ça de loin, et elle dira, mais quoi, tu ne fais rien, qu'est-ce qu'il y a? Et lui dira, j'attends. Non, ça ne va pas aujourd'hui. Il y a un brouillard. J'attends. Et c'est très curieux de voir la différence entre l'aspect moral et l'aspect artistique, là, qui se joignent tout de suite. Qui se joignent tout de suite, on sent très bien. On peut travailler avec ardeur, on s'applique. Le travail est une application. Il y a une application dans le travail. On ne peut pas travailler en dilettante. Pas un travail. Ça implique une application. Ça implique une application, donc ça implique toute une volonté de travailler. Toute une intention de travailler. Donc là, le point de vue moral va intervenir. Je crois qu'on ne peut pas parler du travail et de la réalisation comme telle sans que l'aspect moral intervienne. Je vais préciser encore. Le travail peut se faire avec d'autres, en équipe. Donc il y a un milieu de travail. Et dans le milieu de travail, alors intervient énormément un climat qui permet de travailler avec joie, avec légèreté, ou au contraire, de travailler péniblement. C'est difficile, on est devant. Il y a tout ça qui intervient énormément. Dans n'importe quel travail, il y a tout de suite un milieu de travail. Et ça, c'est le point de vue moral. On le verra, parce que c'est important. Donc je crois que le point de vue moral intervient, tandis que ces deux aspects-là nous semblent complètement en dehors. Le point de vue moral n'intervient pas directement. Il peut intervenir par le point de vue religieux, il peut intervenir par le point de vue de la foi. Et la foi n'est pas la morale. Il peut y avoir des artistes de grande foi qui ne sont pas très morales. Ça existe. Ils ont une grande foi. Et la foi, là, les aide à réaliser quelque chose de grand. Au point de vue artistique. Et dans leur vie personnelle, il ne faut pas regarder trop près. Je vais faire attention. disais, on voit très bien, il ne faut pas regarder trop près. Parce que ça, c'est deux choses différentes. Il y a un compartiment entre les deux. Et ça se comprend, étant donné ce qu'est l'inspiration, étant donné ce qu'est le choix créateur. Il y a quelque chose de différent. Et puis, il y a le point de vue de la réalisation, et la réalisation, c'est différent. Alors, le point de vue dans la réalisation, nous avions vu le point de vue de l'outil, le point de vue de l'état, ça aussi, c'est commandé directement par le point de vue du travail comme tel. Et c'est commandé par l'efficacité. En dehors du point de vue moral. Pas d'outils qui sont morales et des méthodes morales de l'ordre de l'efficacité. Non, c'est quelque chose de différent. Donc ça relève directement, ça montre bien, n'est-ce pas, que nous sommes en présence de quelque chose qui saisit l'homme dans ce qu'il a de plus lui-même, l'activité artistique, et que cette activité artistique n'entraîne pas directement, immédiatement, une attitude morale. C'est deux choses différentes. Mais il y a des collisions. Alors l'œuvre. Est-ce que l'œuvre... Alors, entre deux, il y a, j'avais dit, il y a un jugement. Le jugement critique. Le jugement critique ne doit pas se faire au niveau moral. De faire au niveau proprement artistique. Est-ce que cette œuvre est valable? Est-ce que cette œuvre est bien? Cette œuvre est-elle utile? Et ainsi de suite. Hein. Et puis l'œuvre. Alors, dès que vous touchez l'œuvre, l'œuvre implique l'utilisation de l'œuvre pour les autres. Et dès que ça implique l'utilisation, le point de vue moral, l'usage. Et donc, l'artiste doit comprendre que son œuvre va être remise aux autres qui vont l'utiliser. Et ça peut poser un problème. Ça a été le fameux problème, tout à fait différent évidemment de l'activité artistique, ce fameux problème de ceux qui avaient découvert la désagrégation de l'atome. En disant, est-ce que on a le droit de livrer une œuvre artistique, si vous voulez, la réalisation, est-ce que je peux le livrer ce secret? Si je livre ce secret, je sais que on pourra l'utiliser comme une arme d'attaque, une arme de défense, et alors est-ce que je peux? Je pourrais prendre pour d'autres œuvres, au point de vue artistique, parce qu'il s'agit d'un film, par exemple, qui est très beau, qui peut être très très beau, au point de vue artistique, mais qui peut être dangereux pour certaines sensibilités. Est-ce qu'on a le droit de le livrer, de le communiquer? La plupart du temps, ça ne posera pas de problème. Mais le problème se pose. Puisque dès que je mets mon œuvre et que je la communique aux autres, je suis co-responsable. Forcément, ça ne peut pas être autrement. Autrement, je dois mettre des conditions. Je peux livrer cette œuvre avec telle ou telle condition. Je parle au plan purement philosophique, voir comment le point de vue de l'homme intervient dans le travail, dans l'œuvre et l'usage de l'œuvre. Et alors à ce moment-là, le point de vue moral intervient. Vous voyez, c'est les deux applications. C'est très curieux. C'est toujours dans l'ordre de l'application que la morale intervient. L'Église laisse aux savants toutes les possibilités de recherche. Mais l'Église dit, ah, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette recherche de telle ou telle manière. Dans l'application. Parce que dans l'application, le point de vue moral intervient tout de suite. Là, il faut le saisir. Hein. faut l'essayer, parce que ça, c'est de l'ordre, c'est le point de vue moral et au point de vue humain. Si l'Église intervient, c'est parce qu'il y a un point de vue humain, moral qui intervient. L'Église n'intervient jamais, du moins très rarement, du côté scientifique et du côté artistique. Elle n'a pas à intervenir. Elle peut encourager, mais elle n'a pas à intervenir. Ce n'est pas elle qui donne le critère de l'œuvre d'art. Mais l'Église peut intervenir au point de vue moral en disant à l'artiste lui-même attention à l'usage de cette œuvre. Donc vous voyez deux grands moments où, de fait, le point de vue moral va intervenir. Je précise simplement le point. Autrement, nous voyons que l'activité artistique, comme activité artistique, prenant n'importe quelle activité artistique, spécifiquement, est en dehors de la morale. C'est pour ça que très souvent le problème de l'art et la prudence, de l'art et la morale, est très mal placé, très mal situé. On ne voit pas assez que c'est par rapport à l'homme. C'est pas directement l'art, mais c'est l'homme. Je ne peux pas séparer l'art de l'homme, puisque l'artiste est un homme. Et je le vois spécialement au moment du travail, et au moment de l'œuvre. Ce sont les deux grands moments où l'homme apparaît tout de suite. Quand je suis dans l'ordre de l'inspiration et du choix créateur, là je suis en présence de quelque chose qui naît dans l'artiste et qui fait l'artiste. Il y a des hommes qui sont des hommes et qui n'ont aucune inspiration. Aucune. Sinon, aucune inspiration, ils ne sont pas des savants, ils restent des hommes, ils peuvent être des hommes très honnêtes, des hommes merveilleux, même merveilleux au point de vue de l'amitié, mais non pas plus, de poètes, pas plus d'artistes. Ça, absolument rien. Vous voyez, c'est le point de vue moral intervient dès que l'homme intervient. Parce que l'art est lié à l'homme, mais il a une structure propre. Il a un développement propre. Et ce développement propre de l'art est facile à comprendre puisqu'il est ordonné à l'œuvre. Et que l'œuvre est une fin effet. C'est-à-dire c'est le résultat et ça finalise. Et donc ça donne le caractère tout à fait particulier de l'activité artistique. L'activité artistique est déterminée par l'homme. Et on voit bien que toute cette activité artistique, elle a son originalité, son caractère spécifique, sa propre structure, indépendamment du point de vue moral. Mais elle est portée par le point de vue moral, puisque c'est l'homme qui est l'artiste. Et je ne peux pas séparer l'artiste de l'homme. Elle est portée par le point de vue moral. Elle est portée par le point de vue moral au niveau de la réalisation, au niveau de l'œuvre. Il faut y réfléchir à ça. Il faut y réfléchir parce que ce sont des problèmes qu'on vous pose tout le temps. Et vous fréquentez des milieux artistiques, il faut les présenter parce que cela nous apporte beaucoup et ils ont besoin aussi qu'on les comprenne. Et tout de suite, c'est le problème qui se pose. Et on comprend très bien. On comprend très bien que c'est un problème qui est très important. Est-ce que alors ça, au point de vue artistique, prenez au point de vue technique, au point de vue industriel, c'est la même chose. Une usine a-t-elle le droit de produire n'importe quel produit? Puisqu'il y a un marché, c'est suffisant. J'empoisonne l'humanité, mais ça n'a aucune espèce d'importance, l'humanité est tellement belle. Et je mets une propagande énorme pour continuer et profiter davantage. L'œuvre, la qualité de l'œuvre Est-ce qu'on a le droit de faire quelque chose qui est une œuvre qui abîme les hommes? Ou est-ce qu'on n'a pas le devoir de faire une œuvre qui soit une œuvre constructive de l'homme? Ou une œuvre qui soit utile à l'homme, directement utile à l'homme? C'est la première chose que vous regardez. Et que, ordinairement, quand vous avez affaire à des industriels, ils ne regardent absolument pas. Ça m'a toujours épaté, ça. Première réflexion, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est utile à l'humanité d'aujourd'hui? Rien à voir que ça rapporte. Non, pas du tout. C'est la question de l'humain qui apparaît avec l'œuvre. Ensuite, c'est le travail. Le milieu de travail. Est-ce que ce milieu de travail est un milieu qui en donne plus? Est-ce que c'est un milieu de travail qui diminue l'homme? Qui le met dans un état qui le détruit? Et deux grandes questions. La question outil, la question méthode, la question. Ça c'est très différent. Et puis le point de vue économique comme tel, le point de vue économique comme tel est en dehors de la séance propre. Mais dès que vous regardez l'application de l'économie, tout de suite, l'humain apparaît. Et c'est ça qui me semble important à saisir. Vous voyez, et on le saisit en regardant le Thatcheré de façon tout à fait générale. Parce que si vous regardez uniquement tel Thatcheré, c'est-à-dire le Thatcheré de l'usine, du travail de l'usine, ou le travail de l'art comme tel, vous voyez moins bien. Il faut d'abord essayer de saisir ce que représente cette activité humaine comme activité humaine, cette activité qui a son caractère propre. Donc, ceci, c'est pour vous montrer qu'il y a là un problème très important. Faites le parallélisme du côté moral. C'est très facile. Comme je ne vois pas le point de vue moral, je vais très vite. La première activité morale n'a rien à faire avec le point de vue artistique, avec le point de vue du Thatcheré, l'amour, l'intention et le choix. Autrement dit, tout l'aspect moral qui est purement d'intérieur n'a rien à voir avec le point de vue proprement artistique. Dès que le point de vue moral va impliquer une incarnation, alors immédiatement le Thatcheré intervient. Donc vous voyez que ces deux activités qui sont parallèles ont des moments qui sont tout à fait propres. Et c'est pour ça que je suis obligé de distinguer une philosophie du Thatcheré et une philosophie de l'activité morale. Les deux finalités sont totalement différentes. D'un côté c'est l'œuvre et de l'autre côté c'est le bonheur de l'homme. C'est l'amour d'amitié. Qui est le bonheur de l'homme. Donc là, il y a deux aspects et deux développements de l'homme tout à fait différents. Nous allons maintenant, si vous voulez, regarder le point de vue du premier moment de l'activité artistique, l'inspiration. C'est un problème extrêmement intéressant, difficile, puisque nous savons très bien que certains refusent complètement l'inspiration. C'est comme ceux qui refusent l'esprit. Ils n'ont jamais été inspirés. Alors évidemment, quelqu'un qui n'a jamais été inspiré, par le fait même, il dit que ça n'existe pas. C'est une manière très habile de ne pas reconnaître qu'il y a un manque. Pourquoi pas dire « moi je ne suis pas très inspiré ». Il y a des domaines où on ne l'est pas, et puis il y a des domaines où on l'est. Je crois que chaque homme a son domaine où il est un peu inspiré. Et chaque homme a des domaines où il ne l'est pas du tout. Alors, ce serait très intéressant de regarder quels sont les domaines où vous êtes inspiré et les domaines où vous ne l'êtes pas du tout. Ça, les tests psychologiques ne le font pas beaucoup. Ce serait intéressant, parce que c'est sûrement du côté où on est inspiré qu'on doit plutôt s'orienter. Parce qu'il y a en nous quelque chose qui nous permet de réaliser quelque chose qui soit un peu original, un peu de nous.
Ça, c'est quand même intéressant. Vous voyez, ça nous valorise, comme on dit aujourd'hui. L'inspiration qui est à la source de la réalisation valorise l'homme. Un homme qui n'a aucune inspiration et qui n'a jamais eu aucune inspiration dans aucun domaine, ben, c'est pas très drôle. Il peut être un fonctionnaire, mais je crois qu'il peut pas être plus. Alors, c'est très bien. Il peut être un très bon serviteur, mais il ne peut pas être plus. Alors, il faut avoir l'humilité de reconnaître que c'est ça qu'on doit faire. On doit être serviteur, secrétaire d'un grand bonhomme. Le secrétaire du pape, c'est quand même pas mal. C'est quand même quelque chose. Alors, on est relatif à... Alors, on n'a pas d'inspiration, il vaut mieux qu'un secrétaire n'en ait pas. Il vaut mieux qu'un fonctionnaire n'en ait pas trop, qu'il soit au service d'eux. C'est curieux, l'inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose qui, je crois, subitement, nous donne une espèce d'indépendance farouche. On entre dans un domaine où subitement, on est seul. Et ce n'est pas orgueilleux de dire qu'on est seul. Mais Claudel n'hésitait pas de dire que quand il était saisi par l'aspiration, il y a de l'aspiration chez Claudel. On peut aimer ou pas aimer, c'est sa chose, mais il y a de l'aspiration, il y a du souffle. Alors l'inspiration nous met seul, indépendant, on est coupé tout le reste. Et on peut dire à ce moment-là que personne ne nous influence. Au moment de l'inspiration, on est influencé par personne. Autrement, ce n'est pas l'inspiration. Vous copiez. Vous avez pris des idées chez les autres. Vous savez, ça arrive de temps en temps, ça. Ça arrive de temps en temps. C'est normal, du reste, ça, c'est tout à fait normal. Mais au moment où on est inspiré, on sait qu'on voit autre chose. Alors, il faut regarder, je crois. Parce que quand on nie l'inspiration, c'est toujours intéressant de voir pourquoi on nie l'inspiration. Je crois qu'il faut regarder qu'avant l'inspiration, il y a ce qu'on peut appeler l'expérience artistique. L'expérience artistique, c'est une expérience qui n'est pas l'expérience philosophique. C'est celui qui, oui, qui s'est regardé. Un très beau lever de soleil. On le regarde, on le goûte, on reste un peu pris par ça. D'autres, au contraire, oui, ça ne leur dit rien. Rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il faut. Ah, tandis que oui, s'il y a un tremblement de terre, oh, alors là, oui, c'est... mais un lever de soleil, non. Et c'est ça dans tous les domaines, vous voyez. Dans tous les domaines. Le visage d'un enfant. Le visage d'un vieillard. Dans le métro. On voit très bien. Cette espèce d'indifférence effrayante, les gens qui se regardent plus. C'est très rare que vous voyez vraiment des regards, je ne dis pas des regards curieux, mais des regards humains, qui aiment de voir. Je connaissais un peintre comme ça en Suisse, qui passait ses nuits, souvent, dans les salles d'attente. Et regardez les gueules des gens. Et c'est vrai, je comprends très bien ça. On comprend très bien la fatigue de l'humanité qui est là, présente, dans les salles d'attente. Une humanité qui ne sait plus très bien. où vous avez, si vous voulez, des balades qui tombent sur la route et qui sont là, au pied. Il y a un regard poétique qui n'est pas le regard moral. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expérience poétique? Je crois qu'il y a quand même un type d'expérience qui est une expérience poétique et qui n'est pas l'expérience philosophique. Vous voyez, quand on dit toujours que la philosophie commence par l'expérience, c'est très vrai, mais c'est une expérience philosophique. Philosophique, comprenez bien, c'est une expérience ordonnée à la philosophie. C'est dans ce sens-là qu'elle est philosophique. Il y a des expériences qui ne sont pas ordonnées à la philosophie, qui sont tout simplement des expériences de carte diem, de tout simplement de celui qui est épicurien. L'épicurien, c'est un artiste, un dilettante. Ça n'aurait pas été drôle du tout de mettre un épicure dans une communauté religieuse. Mais c'est quand même un homme de grande assaise, Épicure, hein, pas croire du tout. C'est de grande assaise pour jouir plus, pour aller au sommet de la jouissance, dans l'ordre sensible. Et donc, le sommet de l'expérience esthétique. Chez Nietzsche, il y a tout point de vue de l'expérience esthétique qui est très très fort. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'expérience du philosophe, l'expérience de l'homme pratique et l'expérience du poète ou l'artiste? L'expérience du philosophe, c'est une expérience qui implique en acte le jugement d'existence. Le philosophe est attentif à la réalité existante, à la réalité qui lui est donnée, qui la présente. Il est attentif à cette expérience du travail qui me met au contact avec la matière. Il est attentif à cette expérience de l'amour d'amitié qui me met en contact avec une personne humaine qui existe. Et mon bien. Dans l'expérience artistique, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est la mise en lumière de la qualité. Ce n'est pas du tout la mise en lumière du jugement pour l'existence. Peu importe, ça existe, ça n'existe pas, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est étonnant. C'est ça, c'est ça qui l'intéresse. C'est la qualité, c'est la qualité mise en pleine lumière. Alors, toute espèce de qualité, selon les diverses expériences artistiques, l'expérience artistique de celui qui est très sensible aux odeurs, aux parfums, peut-être une expérience artistique, pas toujours un négativement quelque chose. Et quelquefois positivement, très sensible à ça. L'expérience artistique, celui qui est à la vue pour le peintre, ça c'est évident, la lumière. Il y a des gens qui détectent tout de suite la lumière. Il y a des gens qui. Pas du tout. Combien de personnes ont traversé l'Atlantique sans s'apercevoir qu'à un moment donné, la couleur change? C'est pas la même lumière. Pas la même lumière. Il y a une lumière autre. Et ceux qui vont au Canada s'en aperçoivent. Mais à un moment donné, la lumière change. Le Gulf Stream qui fait qu'il y a quelque chose de changé. Mais il y a combien de personnes qui ont passé plusieurs fois sans s'apercevoir? En avion, c'est très difficile de s'en apercevoir. Mais quand on a la joie d'être sur un bateau, on peut s'en apercevoir. Parce que là, on a un rythme humain. Et c'est quand même très important de saisir la lumière, saisir que les lumières de chaque pays et de chaque région sont différentes. La lumière de Jérusalem n'est pas celle de la Grèce, d'Athènes. Quand on peut faire les deux successivement, c'est assez facile. Assez facile, hein, oui. Quand on va à Jérusalem. Et qu'il y a une escale à Athènes, c'est très curieux. Très, très curieux de voir que la lumière est autre. Ça ne s'analyse pas, ça. Ça, c'est l'expérience esthétique, artistique. Parce que, au point de vue scientifique, on regardera la chaleur. N'est-ce pas ? Ce qu'on vous dira. Vous descendrez de l'avion, il y aura tant de degrés. Tout à fait esthétique. C'est très, très pratique. Mais ça, c'est l'expérience pratique. Ah, il fait froid, il fait chaud. Ou c'est l'expérience de la brave dame qui va au marché et qui achète. J'ai appris ça, je ne savais pas. Il y a des fleurs de chêne. C'est de la salade. C'est pour les amis. Les fleurs de chêne. Il y a une salade qui s'appelle. Alors, quelqu'un qui ne savait pas. Et la brave dame qui vend les salades, il dit : Ah, vous voulez des fleurs de chêne ? C'est quoi les fleurs de chêne ? Mais oui, voilà la fleur de chêne. Alors, c'est une salade particulière. Alors, ça, c'est le point de vue pratique. On est attaché uniquement à l'aspect pratique. Quelqu'un qui sera pris par le point de vue esthétique ira au marché et verra la splendeur d'un marché. À Fribourg, il y avait des marchés d'une beauté, quelquefois, extraordinaire. Toutes les braves femmes de la campagne qui arrivaient et qui mettaient tous leurs produits les plus beaux devant. C'était beau à voir, c'était très beau. Moi, j'allais au marché uniquement pour les regarder. Quand je pouvais y aller, mais je pas pour acheter, parce que j'aurais été roulé à chaque coup, mais pour regarder, pour voir. On a un plaisir à voir. Et éduquer ce plaisir à voir, ce plaisir à entendre, n'est pas mauvais, c'est même bon, c'est même nécessaire. C'est l'expérience artistique. Et l'expérience artistique est une chose bonne. Ce n'est pas du tout la même chose que l'expérience philosophique. C'est pour ça que les deux s'éclairent. Et puis vous avez l'expérimentation du philosophe, du savant. C'est encore autre chose.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles.